Oh que oui, 10 heures ben pile et on s'installe pour les deux prochaines heures ensemble dans le Point de Max. J'espère que vous avez passé un merveilleux mardi matin. J'espère que votre semaine se passe bien jusqu'à présent. C'est 16 degrés à Québec. On attend 23 aujourd'hui avec 30% de possibilité d'averse. Demain, belle journée avec 20 degrés généralement ensoleillé. Jeudi, c'est de la pluie avec 20 degrés, mais après ça, des belles journées dès vendredi là, jusqu'à ce que je vois sur la carte. C'est-à-dire lundi. Là. C'est pas mal du soleil sur les routes. Ça n'a pas été un matin facile. On s'attendait à catastrophe hier. Finalement, cette catastrophe-là avec la manifestation des camionneurs sur le pont Pierre-Laporte est comme jamais arrivée. Puis c'est aujourd'hui qu'on mange la claque alors que c'est encore ben jamais sur le pont Pierre-Laporte direction nord. C'est comme le seul point chaud présentement. Mais si vous devez passer de la rive sud à la rive nord et que vous avez l'occasion de le faire par le pont de Québec, c'est peut-être ce qui est à prioriser au moment où on se parle. 418-971-1021, 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio pour réagir. Il y a aussi le Twitch, BLVD barre en bas FM, où la belle communauté aime bien interagir, jaser entre elles durant les différentes émissions de Boulevard 101, que ce soit Marceau le matin, Le Point de Max, on en jase, ou Gravel dans le retour. Fait qu'on s'installe pour les deux prochaines heures ensemble. Des invités, le fun aujourd'hui. Olivier Teasdale qui va passer dans les prochaines minutes. Il est le fils de Jacques Teasdale. Il y a de nouveaux développements concernant la mort tragique de son père décédé en juillet 2024. Ça, c'est tout le dossier de suivis médicaux qui n'auraient pas été faits, qui ont mené à ce qu'un cancer se développe et que finalement, ben, quand on a allumé, il était malheureusement trop tard et Jacques Teasdale est décédé. À ça est venu s'ajouter des mauvais traitements du côté de l'hôpital. Puis ça aussi, ça fait partie du combat d'Olivier Teasdale qui est mené depuis maintenant à peu près un an parce que le décès était survenu en juillet 2024. Et là, ben, il a enfin réussi à rencontrer un député, celui de Chauveau, Sylvain Lévesque, va venir nous dire un peu comment ça s'est passé. Puis on en est rendu où dans tout le dossier. Aussi du décès de son père. Il y a aussi Louis Martin qui va venir nous voir. Il est conseiller municipal sortant du district de Cap-Rouge-Laurentien, maintenant candidat pour le parti de Sam Ahmad, Leadership Québec. Lui, à la base, était avec le parti de Claude Villeneuve, Québec d'abord. Là, a fait le saut chez Leadership Québec. Et pourquoi à la base je voulais lui parler aujourd'hui, c'est parce que le Journal de Québec nous apprend ce matin que la nouvelle école primaire de Cap-Rouge, donc sur son territoire, va pas encore pouvoir accueillir d'élèves finalement avant la rentrée 2029. Puis c'est un dossier dont on parle déjà depuis quelques années. Je veux savoir qu'est-ce qui niaise autant dans ce dossier-là et on va en parler avec Louis Martin. Sinon, dans la dernière heure, il s'est passé... Il s'est passé des affaires à Boulevard 102, on va le dire comme ça. Napoléon Wu, qui était candidat pour Sam Ahmad, pour Leadership Québec dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, est passé. Puis il y a eu pas mal de réactions sur certaines de ses réponses. Lui, à la base, il faut dire qu'on a annoncé hier soir là, que d'un commun accord avec Sam Ahmad, il n'allait plus être le candidat de Leadership Québec dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Ça a comme commencé cette histoire-là vendredi quand il déplorait un genre de culture de l'itinérance à Québec avec des propos qui déjà faisaient réagir beaucoup. Puis là, depuis, il y avait une publication Facebook qui a refait surface où il écrivait que la ville devrait avoir un lieu de rétention. Idéalement, l'ancien poste de police pourrait ramasser les gens des campements s'ils sont trop agressifs ou en psychose. Il y a des cellules, clôtures, une partie du parc pour leurs besoins, faire le tri et renvoyer les migrants dans leur patelin. Les ressources devraient être pour les itinérants du coin. Puis ça a vraisemblablement été la goutte de trop. Puis si ce matin il y en a qui croyaient que M. Wu allait tempérer ses propos, ben c'est pas ça qui est arrivé. Il en a même remis le tout qui se retrouve déjà sur le blvd.fm en réécoute. Je vous ferai entendre d'ailleurs des petits bouts en fin de show aujourd'hui à l'approche de midi, mais voici un extrait pour mettre la table quand Marceau lui a demandé pourquoi il s'était retiré.
La vérité, c'est que j'étais comme écœuré, là, j'étais tanné des médias, là, des médias qui arrêtent pas d'être tapés sur nous autres, là, sur tout ce que je dis. Tu sais, souvent, mal cité, ils disent pas des vraies affaires. Tu c'est Journal Québec, puis toute la gang, Karine Gagnon, puis toute cette gang-là, il dit pas la vérité.
Donc, Napoléon Wu, l'ancien candidat de leadership Québec dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui était sur nos ondes, je vous le répète, ça se retrouve sur le blvd.fm et ça en a fait réagir plusieurs. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qui fait jaser ce matin? Ben, le Bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur une opération policière qui a mené à la mort d'un adolescent de 15 ans à Longueuil dimanche, Nouran Rezaie, qui a été tiré par des policiers quand on est intervenu après des appels concernant un groupe de près de 20 jeunes potentiellement armés. Puis ce que des témoins disent, c'est que la victime a comme mis ses mains dans son sac alors que les policiers avaient leur arme braquée vers lui. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a une balle qui aurait été tirée. On parle de deux balles. Le décès qui a donc été constaté après des manœuvres de réanimation. Il n'y a pas d'arme à feu qui a été retrouvée dans le sac du kid. En fait, l'arme qui a été saisie par le BAI pour l'enquête, c'est pas compliqué, là, c'est carrément l'arme du policier. Et là, on faisait le point dans la dernière heure. Je vous dirais qu'on n'a pas appris grand-chose. L'enquête, évidemment, qui va prendre un certain temps avant d'être complétée, mais déjà la famille qui envisage un recours au civil contre le service de police de la ville de Longueuil. Pendant ce temps, le nouveau ministre de la Sécurité public, Yann Lafrenière met sur pied un comité de 6 anciens haut gradés de la police pour contrer la violence armée. Le Journal de Québec qui rapporte qu'il veut notamment empêcher les motards criminels de porter en public l'emblème des Hells Angels cousu au dos de leur veste en cuir. Il voudrait donc interdire les fameuses patchs là, par un règlement municipal plutôt qu'un amendement au code criminel qui est de compétence fédérale. Ce serait comme la façon de faire. Donc, il y a un travail qui se fait avec les municipalités de la province pour qu'elles viennent toutes adopter ce règlement-là. Puis à partir de ce moment-là, si toutes les villes l'adoptent, ben en bout de ligne, ce sera comme un règlement à l'échelle du Québec. À Saint-Tite, je lisais ça dans le journal, j'avais pas souvenir de ça. La ville qui était déjà intervenue en 2016 pour empêcher les Hells de vendre la marchandise au Festival Western. Donc, on était venu mettre un règlement, justement, municipal pour interdire de vendre ou de porter des vêtements à l'effigie d'une organisation criminelle. Ces deux dossiers-là, celui du jeune qui est décédé du côté de Longueuil et des Patch puis des Hells puis tout ça, on a jasé de ça avec l'ex-enquêteur au SPVQ, Roger Ferland, ce matin. Ça se retrouve aussi sur le blvd.fm. Autour du ministère de la Sécurité publique du Québec, de voir un projet informatique lui causer du trouble. C'est Radio-Canada qui a appris que la modernisation de ses technologies internes subit un nouveau retard. Alors que les coûts ont déjà augmenté de 56%, la facture qui devait être de 2,4 millions sera plutôt de 3,7 millions, selon les dernières estimations disponibles. Quand il a été autorisé, le projet qui devait être terminé le 31 mai 2023, ben ça c'était il y a 28 mois. La nouvelle échéance, c'était du 30 septembre, selon les estimations. Ça, c'est dans une semaine et ça ne sera pas respecté. Et si tout va bien, maintenant, on parle du 31 décembre. Fait que les paris sont ouverts. Est-ce que finalement, on aura réussi à terminer ce chantier-là le 31 décembre? Le ministère qui explique à Radio-Canada que l'obsolescence des systèmes s'est révélée plus avancée que prévu, complexifiant la mise en œuvre du projet, impactant les coûts, la main-d'œuvre interne et l'échéancier, notamment à la suite de la découverte de nouvelles vulnérabilités. Fait que ce qu'on nous dit, c'est que l'ancien système était tellement vieux puis tellement magané que la job à faire pour arriver avec quelque chose qui allait être à jour puis qui allait avoir de l'allure, ben on avait comme sous-estimé la job que ça représentait, puis c'est ce qui crée là, les problèmes. Je vous en ai glissé un mot parce qu'on va en parler avec Louis Martin dans quoi une trentaine de minutes. La nouvelle école primaire de Cap-Rouge qui n'ouvrira finalement pas ses portes avant la rentrée 2029. Au moment de l'annonce du projet en 2022, l'ouverture qui était prévue pour l'automne 2026. C'est le Journal de Québec qui nous rappelle tout ça ce matin. Depuis, la Ville de Québec et le Centre de services scolaires des découvreurs qui ont pris du temps à s'entendre sur un terrain pour la construction de la nouvelle école. Il y a un premier terrain qui avait été proposé par la Ville, mais le Centre de services scolaires avait refusé parce qu'on le trouvait trop loin. Les deux parties qui se sont entendus sur un autre terrain. Mais la Ville qui doit toujours en faire l'acquisition avant de pouvoir le céder gratuitement au CSS. Puis ça, ben, c'est pas quelque chose qui est complétant encore comme processus. On est là-dedans. Et cité par le journal, la directrice générale du centre, Marie-Pierre Lamarche, explique qu'on est comme pas sorti du bois parce que on a choisi un site qui est dans un milieu potentiellement humide, ce qui impliquera des démarches sur le plan environnemental qui représentent des étapes supplémentaires. Déjà, là, on est rendu à 2029. Est-ce que ça va encore être repoussé après ça? On espère que non. La bonne nouvelle, puis ça, ben je vais le croire quand je vais le voir, mais c'est que malgré les délais importants, on considère que les 24 classes prévues au projet seront toujours suffisantes. Checkez bien ça si on n'arrive pas en 2029, 2030, puis on se ramasse avec les fameuses classes modulaires, parce que là, on va nous dire « Ouais, mais là, c'est parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis 7-8 ans. » On n'avait pas prévu là, que la population dans le coin de Cap-Rouge allait augmenter, puis là, ben on a construit l'école, mais 24 classes, c'est déjà rendu trop petit. Là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas ça qui va arriver. Ce qu'on nous dit, c'est que, selon les estimations, présentement, la population est encore OK pour que les 24 classes qui étaient prévues, ben ce soit suffisant. Fait qu'on va espérer que ce soit bien le cas, parce que sinon, c'est un petit peu gênant. Les travailleurs syndiqués de la Traverse Québec-Lévis, représentés par le Syndicat national des traversiers du Québec, feront la grève le 16 octobre prochain. Il y a un nouvel avis de grève qui a été envoyé à cet effet-là ce matin. Faut se souvenir, il y avait déjà eu un débrayage là qui avait causé une interruption de service durant le dernier Festival d'été de Québec. Ce n'est pas réglé depuis. Au sport, victoire de 2-1 du Canadien dans son premier match préparatoire hier. But gagnant d'Oliver Kapanen en tir de barrage. Owen Beck, qui a été le seul marqueur du tricolore en temps régulier. 20 arrêts sur 21 tirs pour Sam Montembeau, le jeune Jacob Fowler, qui a été parfait face à 13 lancés. Affrontement Flyers-Canadien ce soir, 19h au Centre Bell. D'ici la fin du show, je devrais être en mesure de vous donner l'alignement du Canadien. On s'attend à retrouver entre autres Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Bolduc, en gros, ben des joueurs qui n'étaient pas de l'alignement hier. Et pour conclure les sports, beau match hier de football entre les Lions de Détroit et les Ravens de Baltimore. Après un quart, c'était 7-7. Après une demi, c'était 14-14. Après trois quarts, c'était 21-21. Et finalement, ben les Lions et Dan Campbell qui ont été audacieux. Et ça leur a permis de se sauver avec une victoire de 38-30. Dans les prochaines secondes, on jase avec Olivier Teasdale.
Marceau le soir.
h 13 dans le Point de Max à Boulevard 102-1. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021. Et aussi, si vous avez envie de réagir, parce qu'à toutes les fois que notre invité passe nous voir en studio, ben c'est un dossier qui génère beaucoup de réactions, des gens qui sont choqués, des gens qui ne comprennent pas pourquoi on n'est pas à l'écoute au niveau politique. Et là, ben justement, c'est un peu une bonne nouvelle dont on vous parle aujourd'hui dans le dossier, mais en même temps, il reste beaucoup de points d'interrogation, puis il reste beaucoup de chemin à faire. C'est Olivier Teasdale, fils de Jacques Teasdale. Olivier qui arrive avec de nouveaux développements concernant la mort tragique de son père qui est décédé en juillet 2024. Ça va?
Oui, toi, ça va bien?
Yes, merci beaucoup. On suit ton dossier, puis on en a jasé beaucoup dans le show du matin dans la dernière année, puis une de tes demandes qui était très, très, très récurrente, ben, t'as celle de rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé, directement. Mais à la base, tu voulais juste aussi, à un moment donné, parler à un élu.
Exact.
Tu sais, rencontrer un député et finalement, ben, t'as réussi à le faire. T'as jasé avec le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. Comment ça s'est passé?
Ben, écoute, on dit toujours au mieux tard que jamais. Alors, on a rencontré Sylvain Lévesque hier. C'est une rencontre qui est comme sur deux volets. Ça fait longtemps qu'on talonne le ministre de la Santé pour essayer de le rencontrer, puis on veut que M. Lévesque soit la courroie de transmission, donc le député du comté de mon père, mais le mien en même temps, soit la courroie de transmission entre nous et le ministre de la Santé pour enfin avoir une rencontre éventuellement avec le ministre de la Santé.
Ça sert à ça, tu sais, un député d'une circonscription, ben, est supposé être à l'écoute de ses citoyens, puis d'avoir ces discussions-là, puis que si c'est un dossier qui a à être porté plus haut, ben ce soit lui qui le prenne de le porter plus haut.
Exactement. Je pense que c'est son devoir. C'est son devoir de député, son devoir d'élu. On va aux élections voter pour eux, pour les mettre en place, pour qu'ils nous représentent. Puis ce qu'on demande à M. Lévesque, ben c'est d'être notre porte-parole pour aller vers le ministre, pour dire au ministre, écoutez, on a un drapeau rouge, on a un citoyen qui veut vous rencontrer dans notre comté. On comprend que le ministre a beaucoup de travail, mais comme je vous disais depuis le début, je pense que ça fait un an qu'on dit la même chose. Mm-hmm. Vers d'eau, 30 minutes, on ne se trompe pas, ça ne sera pas long dans l'horaire du ministre. On a eu une bonne rencontre, sérieusement, dans le bureau de M. Lévesque. Des choses qu'on a apprises qui sont un peu flagrantes, un peu aberrantes, je dirais, mais qui nous ont permis un peu de décortiquer ce qui se passe en santé actuellement, puis ce qui s'est passé dans le dossier de mon père aussi.
Parce que c'était un peu le but aussi de la rencontre, de comprendre certains éléments qu'on n'arrivait pas à comprendre. T'sais. Fait que, tu sais, oui, de porter notre message aux politiques, mais je ne sais pas à quel point tu avais des attentes à ce niveau-là, mais le politique a déjà été en mesure de te donner certaines réponses par rapport à certains points.
Exactement. T'sais, comme on parle pour rencontrer le ministre, on est à établir un projet. Il faut écrire un projet avec les articles de loi qu'on voudrait voir changer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le dossier de mon père? Aller chercher les articles de loi qui ont atteint le dossier de mon père puis demander au ministre, mais écoutez, ces articles-là pourraient-ils être revus? Est-ce qu'on peut revoir ces articles-là? Est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce qu'on peut les améliorer en apportant des propositions? Vous savez, il ne faut pas juste chialer, il faut aussi apporter des pistes de solutions.
Mais là-dessus, je trouve qu'il y a quand même des questionnements à y avoir, tu sais, de demander aux simples citoyens d'aller cibler des articles de loi. Tu sais, même moi, là, qui est dans les nouvelles tous les jours, tu me demandes, OK, t'as un problème? Ouais, c'est quel article de loi? Je ne sais pas où aller chercher tous les articles
Exactement.
De loi. Puis... Fait qu'est-ce qu'au moins avec le député Sylvain Lévesque, est-ce qu'il t'a donné plus d'outils que ça?
En fait, il nous a donné de la documentation avec sa directrice de cabinet. Il nous a donné de la documentation. On a regardé la loi ensemble. Et je vous dirais que c'est là qu'un peu mes yeux ont sautillé en voyant certains articles où on apprend dans la loi actuellement qu'il y a une loi qui protège la maltraitance. Elle a été mise en place il y a dans les dernières années. Mais on apprend aussi que pour les gens qui maltraitent, il y a des amendes sévères qui sont prévues. Puis ça a été une de mes questions au ministre hier, à savoir... Ces amendes-là sont appliquées à quel moment?
Mm-hmm.
Puis c'est une réponse qui me surprend parce qu'elles ne sont pas appliquées. On n'a aucun moteur pour appliquer la loi actuellement. C'est le même principe de dire, on a une loi, mettons, au niveau criminel qui empêche de conduire avec des facultés affaiblies, mais on n'est pas capable de l'appliquer, fait continuer à conduire avec les facultés affaiblies.
Ouais.
Fait que ce qu'on dit aux gens qui maltraitent, ben c'est pas trop grave, vous pouvez continuer parce qu'on n'est pas capable actuellement d'appliquer cette loi-là.
C'est particulier.
Un peu, oui.
Fait que, mais est-ce que sur ce point-là, ben c'est un peu là-dessus qu'on va miser pour
Absolument.
Demander une rencontre avec Christian
Absolument,
Dubé?
Parce qu'il faut que cette loi-là qui a été mise en force doit être appliquée. Parce que sinon, ça ne vaut rien de faire une loi actuellement. On reste avec un bout de papier qui a une cinquantaine de pages puis qui nous dit des choses, mais que malheureusement, on n'applique pas. La loi a été faite, puis Mme Lemieux, la directrice de cabinet, me dit que c'était avec des photos, comme celle du dossier de mon père, qu'on bâtit cette loi-là, parce mm-hmm. que des photos comme ça, ils en ont vu eux autres aussi, et ils ne veulent pas que ça continue. Mais par contre, si on ne peut pas appliquer cette loi-là, ça ne nous donne absolument rien de faire le travail pour bâtir une loi.
Mettons qu'on parle du positif, l'attitude de Sylvain Lévesque, de ce que je comprends, ça a quand même été bien. Il y avait de l'écoute, on était en mode solution.
Mode solution, mode réceptif. Écoute, il m'a expliqué des choses. Il comprend, je pense, que dans le système de santé, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens actuellement. Il comprend, il voit la même négligence que nous, on voit dans le dossier. On comprend que c'est lourd, le système de santé. Il y a une grosse hiérarchie autour de ça. Puis je vous dirais, même là où est-ce que... Je trouve positif, c'est que lui aussi, de son côté, comme nous, pour les infirmières qui ont été suspendues dans le dossier de mon père parce qu'ils ont dénoncé,
ouais.
Lui non plus s'explique pas pourquoi ils ont été suspendus parce que la loi, encore là, dans la loi écrite sur la maltraitance, la loi est claire, on ne peut pas suspendre les infirmières. Et ça m'a amené une question à savoir où était-il à ce moment-là, parce que c'est pas vrai que les gens n'ont pas entendu parler que les infirmières ont été suspendues dans le dossier. Ça a été publicisé, ça a été
ouais.
public. Alors, où était-il tout le monde à ce moment-là? On sait que la loi existe. Des Stéphanie Robert dans ce monde-ci qui a été suspendue, qui a perdu du salaire parce qu'elle a osé dire ce qui était arrivé à mon père. Pour nous, c'est pas acceptable qu'une entité comme le CHU de Québec suspende ces jeunes femmes-là puis leur donne plus de salaire parce qu'ils ont osé dire la vérité.
Y a-tu demandé à Sylvain Lévesque, hey, t'étais où pendant tout ce temps-là? Tu sais, je comprends que tu veux quand même arriver là puis être en mode collaboration. Enfin, il a accepté de te rencontrer, mais ça doit te tenter aussi de dire. Hey man, t'étais où?
Ce que je peux vous dire, ce que j'ai répondu à sa directrice de cabinet, c'est que quand elle m'a mentionné que ça fait. Elles l'ont appris la semaine passée que je voulais les rencontrer. Je pense que depuis un an, ça fait assez longtemps que je vous talonne, vous n'avez pas appris ça cette semaine.
Ouais.
Il y a beaucoup de politique, il faut comprendre la politique, il y a beaucoup de politique dans ça. Par contre, bon, on a eu la chance de le faire, puis c'était un devoir d'aller rencontrer le député parce que ça fait longtemps qu'on le demande. Puis je pense que la rencontre peut être constructive, mais aussi il y a des questions qui restent. Toujours sans réponse, à savoir pourquoi cette loi-là, malheureusement, n'est pas appliquée actuellement par les entités comme le CHU de Québec ou, peu importe, le ministère de la Santé ou MSSS ou OCIUS.
Dans ta publication Facebook où tu détailles un petit peu la rencontre que tu as eue avec le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, tu dis que pour lui, il y a deux réalités. Le terrain où l'on voit au quotidien des situations qui n'ont aucun bon sens dans le réseau de la santé et le politique où l'on peut agir en modifiant ou en adoptant des lois. Ça, il t'a clairement dit ça.
Exactement.
Un peu dans le sens de... Oui, ben c'est sur le terrain que ça se passe, mais nous autres, on peut pas nécessairement faire grand-chose avec ça pour le moment.
Ce que je comprends du député actuellement, c'est qu'il constate, parce que des membres de sa famille travaillent dans le réseau de la santé, il est au courant que ça n'a pas de bon sens le quotidien en santé, qu'il se passe des choses dans le système de santé, au même titre que sa directrice de cabinet, comprenne que de la maltraitance, ça existe. Puis à un moment donné, si vous voyez dans ma publication, je reprends les mots du député où il dit « des cabochons qui vont maltraiter des gens, il va toujours en avoir malheureusement. »
Peu importe la loi.
Peu importe la loi, mais... Si on commence à appliquer la loi, comme je disais hier, peut-être qu'il va en avoir moins de ces gens-là qui vont maltraiter les gens. Je pense que tout part de là. Puis le député en est conscient, je pense que son bureau en est conscient, mais maintenant, il faut qu'il transmette le message au ministre de la Santé pour que tout ça change ensemble.
Mais justement, tu parles de transmettre le message au ministre de la Santé, Christian Dubé. Tantôt, tu me parlais un peu de ce que tu devais faire, d'aller cibler des articles de loi puis de préparer des documents. Ce que te connaissant, j'imagine que tu vas le prendre à cœur puis
exactement,
tu vas le faire.
Exactement.
À quel point ça semblait une vraie ouverture de porte de « Hey, si tu fais ça, ça devrait bien aller, puis tu vas le rencontrer. » Ou si c'est un genre de « Hey, je vais me débarrasser de lui, là, avec son maudit dossier dont lequel il nous lâche pas depuis un an. » Moi, il dit de remplir des papiers de la paperasse, puis encore là, ça va peut-être bien prendre un an avant qu'il finisse par le rencontrer, le ministre.
Bien, si vous me permettez d'être honnête, on sort de cette rencontre-là avec un peu ce que vous venez de dire, c'est on a l'impression qu'on nous dit des choses pour nous ralentir, hein, pour nous calmer, pour qu'on publie moins.
On achète du temps.
On est dans une année électorale, il faut se le rappeler. On comprend que ce qu'on m'a parlé hier, écrire une lettre comme ça au ministre Dubé, en demandant certaines modifications au niveau de la loi et des propositions, faire un changement, on peut parler d'un 6 à 8 mois pour se faire répondre. Si on s'est tous calculé, dans 6 à 8 mois, on va être en début de campagne électorale pour l'année 2026. Soyons honnêtes, le ministre Dubé a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Alors, les chances que ce projet d'écriture-là fonctionne sont minces. Ça va nous apporter, nous, à continuer le combat, puis à continuer d'une manière ou d'une autre. En le faisant, parce qu'on nous a demandé de le faire, puis on va bien le faire, mais on va continuer de talonner le ministre, parce que je pense que sans un bout de papier ou sans une écriture de 3 pages ou 4 pages, on peut rencontrer le ministre, puis raconter l'histoire très rapidement. Après ça, il peut lui-même regarder, puis faire des changements avec ce qu'on y apportera par la suite. Mm-hmm. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis d'entendre l'histoire. Parce que si on ne prend pas le temps d'entendre l'histoire, on peut partir à zéro. Effectivement, comme vous dites, il y a le fatigant, on va arrêter. Puis lui, on va y fermer le clapet, on va le rencontrer une fois pour toutes, puis ça va arrêter là. Il ne faut pas que ça arrête là. Il faut que ça continue de s'améliorer.
Ton plus grand combat, puis je comprends que c'est le même grand combat, mais il y a comme deux aspects au combat. Il y a le dossier de ton père, Jacques oui. Tisdale, qui a comme été oublié, perdu. On sait. Puis là, il y a un cancer qui a eu le temps de se développer puis éventuellement de tuer ton père.
Exact.
Puis il y a le côté maltraitance à l'hôpital. Y en as-tu un que tu t'es tenté de pousser davantage ou pour toi, c'est comme deux dossiers qui sont sur un même pied d'égalité puis les deux n'ont pas de maudit bon sens puis les deux, il faut qu'ils se règlent?
Je dirais que les deux sont unis. L'oubli de suivi, il ne faut pas oublier que l'oubli de suivi a causé la mort. Puis la maltraitance n'a pas aidé à ralentir le processus de la mort. Un oubli de suivi d'un plasteur sur un bobo, on s'entend, vous et moi, ce n'est pas quelque chose qui va marquer notre vie. Oublier le cancer de quelqu'un qui le tuera un an plus tard, ben, en fait, 3 ans plus tard, mais un an après le diagnostic ou quelques mois après le diagnostic, ça, c'est grave pour moi. La maltraitance, aussi grave. Parce que la maltraitance, vous savez, quand on perd notre dignité, est-ce qu'on a vraiment le goût de vivre? C'est la question qu'il faut se poser. On ne l'a pas vécu, personne qui sont encore vivants aujourd'hui ou qui n'ont pas vécu ce genre de choses-là. Mais je pense que perdre sa dignité au travers d'un grand combat que tu décides de mener, parce qu'il faut se rappeler que débuter un combat à 74 ans contre un cancer des poumons au stade 4, ça prend du vouloir, ça prend du courage. Ouais. On sait que ce n'est pas un cancer qui est facile, c'est un cancer qui est très meurtrier. De décider de faire ça, moi, je levais mon chapeau à mon père pour son courage. Puis il y a bien des gens qui ont dit « t'as du courage de le faire ». Puis il a décidé d'y aller, comme on dit au poker, « all in mm-hmm. ». On va se battre coûte que coûte, peu importe ce que le traitement va me faire. Par contre, d'autre côté, la maltraitance arrive, la perte de dignité arrive. Fait que tu vis avec le fait que les gens t'ont oublié, puis tu vis avec les faits qu'on n'est même pas capable de changer ta couche, puis on te laisse dans tes excréments ou ouais. on ne change pas tes pansements. Alors tout ça réuni ensemble fait que c'est une maltraitance, moi j'appelle une maltraitance aiguë dans le dossier de mon père, qui a amené mon père vers la mort beaucoup plus rapidement.
Sur le plan des enquêtes en cours présentement, on en est où? Tu sais, à un moment donné, il y avait une enquête de tel groupe, puis une enquête de tel groupe. Là, telle enquête est fermée parce qu'on en est où au moment où on se parle un 23 septembre?
Il faut se rappeler que l'enquête du CMDP, du comité des dentistes, pharmaciens et médecins là, à l'intérieur du Québec, a été fermée parce que le pneumologue a décidé de démissionner.
Exact.
Ensuite de ça, on a encore trois enquêtes qui sont ouvertes présentement. On a l'enquête du coroner, hein, qu'on va attendre bientôt. Le coroner, bien bientôt, je vous dirais, soit fin de l'année cette année ou début de l'année 2026, là, on peut imaginer que le coroner va nous rendre un rapport dans ces eaux-là. On a l'Ordre des infirmières qui enquête sur l'infirmière praticienne qui a aussi participé au non-suivi de mon père. Et on a aussi le Collège des médecins. Mais par contre, au Collège des médecins, il s'est ajouté une autre plainte qui est venu du médecin examinateur du CMDP.
Okay.
Le médecin examinateur du CMDP n'était pas content que la plainte se ferme parce que le pneumologue démissionnait, donc plus possibilité d'enquête. Alors, ce que lui fait, le médecin examinateur, à ce moment-là, c'est qu'il a pris une nouvelle plainte qui va s'annexer avec notre plainte. On s'entend qu'au Collège des médecins, ça ne fait pas une nouvelle plainte, mais par contre, ça vient s'ajouter à notre plainte par le médecin examinateur qui dit, écoutez, là, moi, je vous lève un flag, là, la plainte, là, que nous autres, on trouvait qu'elle était fondée, cette plainte-là. Donc, moi, je vous dis que je veux vous investiguer sur cette plainte-là aussi. Donc, c'est un médecin qui vient appuyer notre plainte au niveau, celui qui était le médecin examinateur pour le CMDP, vient appuyer notre plainte au niveau du Collège des médecins.
Sur le plan judiciaire, est-ce qu'on attend justement la conclusion de certaines enquêtes? On est-tu un peu au bout de notre siège, puis on est prêt?
Je vous dirais qu'on est pratiquement prêt à judiciariser le dossier. On avait toujours bon espoir d'avoir de la communication des autres parties. Malheureusement, c'est un peu comme le gouvernement. On espère toujours que les gens vont s'éteindre, les gens vont plier les genoux, vont décider d'abandonner. On leur a souvent passé le message, il n'y a pas question de ça. On est prêt à déposer. On veut voir ce que le rapport du coroner va dire. Vous savez, avec un rapport du coroner et un collège des médecins, les dossiers qui vont suivre vont venir peut-être appuyer nos demandes aussi. Alors, ce qu'on veut faire, c'est nous autres déposer quelque chose de concret puis aller de l'avant avec un document complet puis des précisions qu'on aura apportées. Si jamais, on devrait se rendre à procès dans le dossier de mon père.
Puis justement, tu sais, tu dis si jamais on doit se rendre à procès, on est à combien de temps ou à combien d'éléments de devoir se rendre là?
Bien, je vous dirais que nous, on est prêts. Ça va être dans les prochaines semaines. On s'entend que normalement, si on suit le chemin qu'on suit actuellement, avant la fin de l'année 2025, on va déposer une demande introductive à la cour pour ouvrir les procédures contre le pneumologue, médecin de famille, infirmière praticienne et le CHU de Québec. Donc, ça va être dans les prochaines semaines. On va voir à partir de là. Vous savez, on rouvre une procédure judiciaire qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura un procès. Il y aura peut-être des pourparlers pour des règlements à l'amiable.
Mais pour l'instant,
ce sera déposé comme une poursuite judiciaire.
Parce qu'il n'y a pas moyen de jaser.
Vous savez, je parlais justement avec mon avocat dernièrement. On disait, tu sais, on a fait des relances dans les dernières semaines puis on n'a pas de réponse de la part des avocats de l'autre côté. C'est un gambling qu'ils ont décidé de prendre et de dire, ben écoutez, comme je vous dis, je pense qu'ils pensent qu'on va plier les genoux, on va abandonner. Mais ce serait mal nous connaître. Tu sais, je l'ai dit des fois ici, puis la force des radios, des médias de Québec que vous nous avez donné aussi, c'est la parole. La parole fait qu'on continue ce combat-là, puis les gens nous entendent. Puis j'ai commencé seul. Aujourd'hui, je voudrais qu'on a des milliers de personnes qui nous suivent, qui suivent nos publications, puis les gens nous apportent du soutien. Puis je pense que c'est ce qui nous donne la force d'aller encore plus loin, puis de lire les histoires des gens, de ce qu'ils ont vécu. Des choses comme mon père, d'autres choses différentes, mais qui se ressemblent. Alors, ça nous donne la force de continuer, puis de dire, on va arriver à quelque chose d'intéressant pour tout le monde à la fin de ça.
Ton avocat, des fois, il trouve-tu que tu publies beaucoup, puis que tu vas beaucoup dans les médias? Des fois, il dit-tu, Oli!
Mais je vous dirais, j'ai un excellent avocat. On a une super bonne relation ensemble, je vous dirais. Des fois, il dit, Olivier...
Celle-là.
Parle-moi donc avant. Moi, je l'aime, celle-là. Mais on se complète vraiment bien. Puis il est très transparent. Je suis très transparent avec lui. Puis on ne jouera jamais un jeu de cachette. On a décidé que ce dossier-là serait public. Puis je voudrais pas qu'on commence à cacher l'information sous prétexte qu'on veut se rendre à court pour dire « Ah, oh, on va passer à court. » Vous savez, le débat à court, ça va être un juge, des avocats, puis des spécialistes, puis des ci, puis des ça. Ils vont nous entendre. Ils vont entendre d'autres parties s'il y a procès, comme on disait tout à l'heure. Mais entre-temps, on a décidé, puis mon père voulait qu'on le rende public, puis pour lui, on va continuer de le rendre public. Mon père nous disait toujours, même si ça fait mal, même si ça t'écorche au passage, même si ça te donne encore plus de pouvoir, même si ça donne encore plus à ton dossier, continue toujours de dire la vérité, puis de le faire, puis de bien le faire.
Olivier Tézel, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Au retour, Louis Martin, conseiller municipal sortant du district de Cap-Rouge-Laurentien, maintenant candidat pour le parti de Sam Hamad, Leadership Québec. Le Point Max. Victoire de 2-1 du Canadien de Montréal hier dans son premier match préparatoire. But gagnant d'Oliver Kapanen en tir de barrage. Owen Beck a été le seul marqueur du Canadien en temps régulier. D'ailleurs, Owen Beck a pas mal été le meilleur joueur hier. Je m'attendais à beaucoup du jeune Finlandais Oliver Kapanen qui était bien entouré de Patrick Laine et d'Ivan Demidov. Mais c'est plutôt Owen Beck qui est bien ressorti hier. Et d'ailleurs, dans les dernières secondes, on a appris qui serait de l'alignement pour affronter les Flyers de Philadelphie dès ce soir. Deuxième match préparatoire pour le Canadien. Sans surprise, Cole Caulfield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovský seront de l'alignement. Joshua Roy formera un trio avec Alexander Newhook et Zachary Bolduc. Ça, c'est un trio qui est bien intéressant. Audition, pas pire pantoute pour le jeune Joshua Roy. Sur le troisième trio, on a deux Québécois, Samuel Blais et Joe Veleno. Ils sont accompagnés de Vincent Roher, qui est un jeune aussi très intéressant. Et le quatrième trio, oh que je l'aime! Luke Tuck, qui est le frère d'Alex Tuck. Alex, beaucoup plus talentueux du côté des Sabres de Buffalo, mais Luke Tuck, c'est un joueur imposant qui est capable de sortir les épaules aussi. Au centre, on a Florian Jacky, qui est le petit frère d'Arber Jacky. Et à l'aile droite, on a Thorpe, qui est un gros bonhomme aussi. Fait que ça fait un quatrième trio qui risque de brasser pas mal à soir. J'aille pas ça pantoute. En défense, Lane Hudson sera de l'alignement en compagnie de Caden Goulet. Sur la deuxième paire, Arber Jacky et Alexandre Karius, qui risque d'être le troisième duo en défense du Canadien cette saison. Et ensuite de ça, pour compléter, on a le cinquième choix total du repêchage 2023-24, David Reinbacher et Paquette Bisson devant le filet. Ceux qui risquent de se battre pour le poste d'auxiliaire à Samuel Montembeault, Jakub Dobesch et Kaapo Kakkonen. Donc, bien intéressant. Cet alignement-là m'intéresse un peu plus que celui d'hier. Pour être bien honnête, je vous ai parlé du quatrième trio. Un quatrième trio robuste comme ça. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'excite un petit peu, le poil de jambe. Mais tu sais, de voir des gars comme Veleno aussi. Vincent Roher, c'est un gars qui pourrait, à mon avis, surprendre. C'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Samuel Blais, qui est un Québécois aussi, Joshua Roy. Fait que non, j'aime bien ça ce soir, ce qu'on va avoir comme alignement. On me questionne sur ce qui se passe du côté des ponts, parce que c'est vrai que c'est encore très problématique, puis ça l'est depuis tôt ce matin. Là, il est rendu 10h40. On a eu quelques problèmes, là, ce qui cause la congestion qu'on a présentement, c'est qu'il y a eu sur le pont Pierre-Laporte, direction nord, à la sortie du pont Hauteur Boulevard Champlain, un accident carrément. Et là, même si l'accident en tant que tel s'est terminé, il y a toujours des répercussions de ça, ce qui fait que le pont Pierre-Laporte direction nord, c'est encore assez compliqué. 418-971-1021 s'il y a quoi que ce soit. Le temps de vous dire qu'à la météo, c'est un 17 degrés présentement à Québec. On attend 23 aujourd'hui avec 30% de possibilité d'averse. Demain, mercredi, c'est 20 degrés généralement ensoleillé. Fait qu'une belle journée en vue. Avant la moins belle journée de jeudi, on attend 20 degrés et des averses. Mais après ça, c'est une très belle fin de semaine. Le vendredi, samedi, dimanche, des températures autour de 20. Vendredi, c'est avec alternance de soleil et de nuages. Samedi, c'est carrément une belle journée ensoleillée. Et dimanche, c'est alternance de soleil et de nuages. Dans les prochains instants, on va discuter avec Louis Martin, qui est conseiller municipal sortant du district de Cap-Rouge-Laurentien, maintenant candidat pour le parti de sa maman de Leadership Québec. Parce que le Journal de Québec nous a appris ce matin que la nouvelle école primaire de Cap-Rouge ouvrira finalement pas ses portes avant la rentrée 2029. Au moment de l'annonce du projet, c'était en 2022. L'ouverture était prévue pour l'automne 2026. Depuis, la Ville de Québec et le Centre de services scolaires des Découvreurs ont pris du temps à s'entendre sur un terrain pour la construction de la nouvelle école. Il y a un premier terrain qui avait été proposé par la Ville, mais le Centre de services scolaires avait refusé parce qu'on le trouvait un peu trop péloigné. Les deux parties qui se sont entendues sur un autre terrain, mais la Ville qui doit toujours en faire l'acquisition avant de pouvoir le céder gratuitement. On en parle dans les prochaines secondes avec Louis Martin. « 2022 ». l'année de l'annonce du projet de cette nouvelle école primaire de Cap-Rouge qui devait ouvrir à la base pour l'automne 2026. Et là, le journal nous apprend ce matin que ce ne sera pas avant 2029 finalement. Et pour en jaser, Louis Martin et les conseillers municipaux sortants du district de Cap-Rouge Laurentien, maintenant candidat pour le parti de sa maman de Leadership Québec. Monsieur Martin, bonjour.
Bon matin.
Ça va bien?
Très bien.
J'imagine que pour vous qui êtes directement impliqué dans ce dossier-là depuis des années, d'ouvrir le journal à matin, quoi que vous étiez peut-être au courant déjà, là, mais de voir qu'il y a encore un report et que finalement, c'est pas avant 2029 que les élèves vont pouvoir accéder à cette nouvelle école primaire-là, doit être fâchant.
Je dirais fâchant, oui, décevant, oui, mais c'est surtout triste pour les citoyens de mon district qui, eux, attendent cette école-là. Ça fait depuis 2020 qu'on en parle. Ça avait été annoncé en 2022 par la ministre Guilbeault. Et là, encore des délais. Il y avait des citoyens, en mars, je pense, la ville avait organisé une activité et ils nous disaient, nous, on a acheté dans ce secteur-là des nouveaux terrains en 2021. Nos enfants avaient 3 et 4 ans en se disant, on va avoir une nouvelle école, ils vont pouvoir y aller. Et là, ils vont être rendus à la fin du secondaire avant que l'école ouvre. T'sais, c'est des impacts directs pour les citoyens qui ont choisi le quartier de Cap-Rouge pour la qualité, pour ses écoles. Et là, finalement, leur plan tombe à l'eau et ils pourront pas utiliser la nouvelle école.
Et là, on lit aussi dans l'article du journal que malgré les délais, le nouveau bâtiment de 24 classes devrait toujours répondre aux besoins d'espace dans ce secteur à son ouverture puisque les prévisions de clientèle sont restées relativement semblables. Est-ce que vous avez les mêmes informations ou on va se ramasser avec une nouvelle école avec des classes modulaires dans le parking?
J'espère que non. J'espère qu'elle va être capable d'avoir les étudiants qui sont là. Surtout qu'autour du IKEA, la ville a un gros projet de développement immobilier. On parle, si ma mémoire est bonne, de 4000 logements, à peu près 7000 personnes.
Ouais.
Et ça fait beaucoup de familles qui vont aller s'installer dans le secteur. Donc, on a besoin de cette nouvelle école-là et je ne suis pas inquiet qu'elle va être occupée. Mais je pense que tout a été calculé avec le Centre des services scolaires.
Parce que là, en attendant, pour ceux qui sont peut-être moins, qui ont moins connaissance du dossier, là, en attendant, là, maintenant, c'est 2029, à quel point on est dans une situation inconfortable dans le coin de Cap-Rouge niveau école primaire?
Les gens, le bassin présentement dans ce secteur-là, c'est l'école Filteau qui est un peu loin. Moi, je vois beaucoup d'autobus jaunes qui viennent chercher des gens dans les quartiers autour. J'habite là. Donc, les enfants qui vont un peu partout. J'avais des gens qui me disaient que leurs enfants vont en 3 ou 4 différentes écoles primaires. Et même pendant qu'on s'en venait ici, j'ai reçu un message d'une citoyenne qui disait tout simplement « Je viens de voir l'article, je suis vraiment découragé comme probablement la majorité de mon quartier. » Ça, c'est des citoyens directs ce matin qui nous disent comment c'est triste pour eux. Moi, ce qui me déçoit vraiment, c'est cette école-là aurait déjà en construction et ouverte. Et le maire l'a admis l'année passée que tous ces délais-là sont causés par le tramway. Fait qu'on voit comment que le tramway, ce projet-là que le maire pousse et veut, a des impacts concrets dans la vie des gens. Et le tramway n'est même pas encore commencé. Donc là, s'il y a encore des délais, s'il y a encore des reports, ça va-tu retarder d'autres choses? Mmh. On met-tu la ville en pause jusqu'à ce que ce projet-là du maire soit complu? Et on dit présentement, c'est l'ouverture, mise en service, on dit 2033. On s'entend que s'ils respectent les échéanciers, ça n'arrive pas souvent dans les projets comme ça. Est-ce que c'est plus 2035, 2040? On va-tu mettre la ville sur pause pendant toutes ces années-là?
Avez-vous l'impression que, parce que là, faut le dire, vous étiez avec l'équipe de Claude Villeneuve par le passé, vous êtes passé à l'équipe de Sam Ahmad en vue de l'élection qui s'en vient en novembre. Avez-vous eu l'impression ou avez-vous déjà eu l'impression, Louis Martin, que si vous aviez été dans l'équipe du maire, si le district là, de Cap-Rouge-Laurentien avait été un district dans lequel c'est un élu de l'équipe du maire qui avait été élu, ça aurait moins traîné comme dossier?
Pour le dossier de l'école spécifiquement, je pense pas. Je pense que c'était plus une décision de « Ah, ben là, le tramway s'en vient, on veut pas rien faire, donc on attend. » Même qu'on sait qu'avec le parc Jean-Paul Lallier, où on dit « Ah, mais il y a le tramway s'en vient, fait qu'on réparera pas la fontaine avant 5 ans, 10 ans, parce que vous savez, le tramway, c'est important. » Oui, mais il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie des citoyens, c'est pas juste ça.
Puis là, en plus, on lit dans l'article du journal, c'est la directrice générale du Centre de services scolaires, Marie-Pierre Lamarche, qui dit que là, le site qui a été choisi, là, l'autre, parce que là, le premier, on trouvait que c'était trop loin et que ça n'a pas marché, se trouve dans un milieu potentiellement humide, ce qui impliquera des démarches sur le plan environnemental qui représentent des étapes supplémentaires.
Mm-hmm.
Là, le 2029, va-tu se transformer à cause de ça en 2030, puis en 2031, puis en 2032?
Bien, en mai 2025, donc il y a quelques mois, le directeur général de la ville nous disait en conseil de ville, parce qu'on posait des questions, « Aucun problème, la cible c'est encore 2028, ça va arriver en 2028, je suis confiant, ça va être 2028. » On parle en mai, il y a quatre mois. Là, aujourd'hui, on apprend 2029 et on s'entend qu'une école, ça, même si elle est livrée en février 2029, ben les gens n'iront pas à l'école à ce moment-là. On ne peut pas avoir de délai. Là. Fait qu'il faut que ce soit au bon moment. Je pense que ce serait facile de glisser encore d'une autre année. Et on s'entend, 2030, c'est dans 5 ans. Ça veut dire que les gens, les enfants qui ont présentement 5 ans, ils n'iront peut-être pas à cette école-là.
Est-ce que ces impacts-là du projet de tramway sur la ville en général, on parle de, OK, ben là, le parc, là, on ne peut pas le faire tout de suite parce que là, on ne va pas mettre des millions pour en remettre avec le tramway. Là, l'école, peut-être que ça, on ne peut pas le faire parce que là, le tramway... C'est-tu un peu ça qui a fait que vous êtes passé d'un parti pro-tramway en celui de Québec d'abord et Claude Villeneuve à un parti qui n'est pas pour le tramway en Leadership Québec?
Bien, à l'excellent 2021, c'était un projet de tramway à 3,9 milliards qui devait, et je me rappelle en avoir parlé avec les membres de l'équipe du maire, on disait au deuxième mandat, on va pouvoir prendre le tramway pour venir à l'hôtel de ville. Ça, c'était en 2021-2022. Là, on est rendu 4 ans plus tard. Le prix a plus que doublé. On est rendu à 7-8 milliards et on n'a pas encore les nouveaux prix de CDPQ Infra. Le délai est rendu 2033, peut-être 35, peut-être plus. Fait qu'on s'entend que est-ce que ça va être un projet qui va se faire et pendant ce temps-là, on va geler la ville tout ce temps-là à dépenser une fortune. À un moment donné, il faut regarder les billes, il faut regarder où est-ce qu'on en est rendu puis se dire... Ça marche plus, ce projet-là. Maintenant, là, c'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop long, c'est trop retardé. Les problèmes que les citoyens vivent, c'est aujourd'hui. La circulation, c'est aujourd'hui qu'on la vit. On ne peut pas attendre 10 ans avant de régler les problèmes de circulation à la Ville de Québec. Il faut s'y attaquer maintenant.
Leadership Québec a perdu un candidat dans les dernières heures, Napoléon Houx, qui s'est retiré, ou du moins un commun accord là, avec sa mamade après des propos. Ça avait commencé vendredi, des propos qui déjà faisaient sourciller bien du monde. Là, il y a des journalistes qui sont allés fouiller un peu et qui sont tombés sur des propos aussi sur sa page Facebook. Puis il était en onde ce matin avec nous, M. Houx. Puis je veux vous faire entendre un petit extrait de... C'est un 20 secondes où M. Houx nous explique pourquoi il a choisi avec M. Hamad là, de quitter.
La vérité, c'est que j'étais comme écœuré, là. J'étais tanné des médias, là. Des médias qui arrêtent pas d'être tapés sur nous autres, là. Sur tout ce que je dis. Tu sais, je suis souvent mal cité. Ils disent pas des vraies affaires. C'est Journal de Québec, puis toute la gang, Karine Gagnon, puis toute cette gang-là, ils disent pas la vérité.
C'est-tu vrai que les médias en ont contre sa maman des Leadership Québec?
Je dirais pas qu'il y en a, mais je dis que Sam Ahmad, c'est la cible présentement de tous les autres partis politiques. Et vous disiez tantôt que les commentaires Facebook ont été trouvés par les médias. Ben moi, ce que j'ai entendu hier à nouveau, c'est Mathieu Boivin qui dit « L'information des commentaires de M. Houx nous a été donnée par l'équipe du maire. » C'est même pas les médias qui ont trouvé l'information qui sort, c'est les adversaires politiques de M. Ahmad qui utilisent les médias et les nourrissent avec des informations comme ça. Fait que c'est, moi, je ne dis pas les médias sont les méchants qui veulent nous attaquer, mais ils utilisent les munitions qu'on leur donne et font le travail de salissage que d'autres personnes n'osent pas faire publiquement. Et M. Boivin l'a dit hier, c'est clairement l'équipe du maire qui utilise ça. Et on se rappelle que l'équipe du maire, non seulement à l'hôtel de ville, c'est un budget de cabinet d'au-dessus $1 million qu'il a par année pour employer des gens. Ça fait beaucoup de gens qui peuvent chercher des choses.
Est-ce que c'est un combat justement inégal présentement face à un nouveau parti comme Leadership Québec?
Oh, c'est monsieur, on entend souvent dire que les nouveaux partis, c'est la première élection qui est la plus difficile. Monsieur Ahmad a fondé son parti il y a à peine quelques mois. Est-ce que c'est inégal? Oui. Est-ce que c'est injuste? Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Les nouveaux partis doivent au début avoir moins de moyens. Monsieur Marchand l'avait fait en 2021 et a réussi à passer. Donc, moi, je blâme pas personne. Je trouve ça plate. J'ai hâte qu'on parle des idées. J'ai hâte qu'on parle des choses. Moi, quand je suis en porte-à-porte, là, il y a personne qui me parle de Saint-Roch. Il y a personne qui me parle de Monsieur Houx. Moi, les gens me parlent de tramway, de coût de la vie, de l'état des rues.
Personne ne vous parle de Saint-Roch?
Personne.
J'ai de l'itinérance dans Saint-Roch, personne ne vous en
dans
parle.
Dans mon porte-à-porte, là, dans mon secteur, là, on me parle de l'état des rues. Je peux vous parler de l'état de la rue Pellant. Je peux vous parler de la vitesse dans les rues. Je peux vous parler d'égouts qui refoulent dans les sous-sols des citoyens. Mais je n'ai, et je vous le jure, aucune personne dans la plus de 100 quelques portes que j'ai faites dans les dernières semaines qui m'a parlé de Saint-Roch.
Fait qu'est-ce que c'est un enjeu qui est un peu amplifié par les médias, peut-être, ce qui se passe dans Saint-Roch ou par d'autres partis d'opposition?
C'est un enjeu sérieux, c'est un enjeu important, c'est un enjeu auquel on doit s'adresser parce que j'étais à Saint-Roch XP il y a quelques semaines, j'ai vu l'itinérance et c'est fait ouf, ok, c'est impressionnant de voir ça et les itinérants n'étaient pas très très dans Saint-Roch XP, c'est impressionnant à voir ça. Fait que c'est quelque chose auquel on doit s'adresser, c'est quelque chose d'important, mais dans la vie des citoyens, au day-to-day, jour après jour, et eux autres pensent pas à Saint-Roch, sauf s'ils vont voir un spectacle, s'ils vont à un événement. Eux autres pensent à leur poubelle, à leur eau, à l'état des rues, à la circulation routière, aux écoles qui sont retardées, aux centres communautaires qui tombent en morceaux, aux piscines qu'on n'a pas, qui étaient promis par la ville depuis plus de 5 ans. Ça, c'est les enjeux locaux des citoyens.
Puis l'enjeu numéro un pour Louis Martin, que ce soit dans son district ou en général dans la ville de Québec, ce serait quoi?
Pour moi, pour mon district, c'est ma première loyauté et c'est livrer les projets qu'on aurait dû avoir, qu'on n'a pas eu. J'en ai mentionné quelques-uns et la piscine de Cap-Rouge, c'était au plan directeur aquatique depuis 2021 de commencer à faire la planification. 5 ans plus tard, il n'y a rien qui a été fait. Le centre communautaire de Cap-Rouge est en train de tomber en morceaux. L'entrée a été fermée pendant 2 mois cet été. Il y a des travaux d'urgence qui sont faits, mais il n'y a aucun plan de remplacement, de rénovation majeure, alors que c'était dans le plan des bâtiments communautaires. Tout a été planifié, tout est réfléchi à la ville. Mais on n'a pas les projets qui étaient promis et ça, les citoyens trouvent que c'est vraiment désolant.
Le tramway, à quel point c'est l'enjeu numéro un pour bien du monde dans votre quartier? Vous l'avez nommé dans les enjeux qui étaient abordés. Est-ce que vraiment on s'en va vers une élection qui sera, entre guillemets, référendaire sur le tramway à l'extérieur du centre-ville de Québec, mettons?
Je dirais que c'est un enjeu dont on me parle souvent parce que c'est un enjeu qu'on entend dans les médias. Ça a un gros impact pour la ville et un gros impact financier. Mais est-ce que c'est juste là-dessus? Non, moi, on parle beaucoup plus du bilan du maire Marchand, de comment il n'a pas livré pour les banlieues. Il y a plein de monde qui m'ont dit, nous, à la dernière élection en 2021, là, on a voté pour Bruno Marchand, puis on est déçus, on ne votera plus jamais pour lui. Il n'a pas livré ce qu'il nous a promis. Fait que moi, je vois plus ça sur la sous-performance du maire Marchand qui n'a pas donné tout ce qu'il faut. Et la question souvent que je pose aux citoyens, c'est est-ce que dans le courant du dernier mandat du maire Marchand, il a fait des choses pour vous aider? Et on me dit, pas vraiment. Et même au contraire, il a ajouté une nouvelle taxe sur la matriculation, il a ajouté des pistes cyclables, il a ajouté des choses qui empirent ma vie. Donc, il n'a pas fait grand-chose pour m'aider en 4 ans.
Vous avez vu certainement les résultats de sondage dans Le Soleil la semaine passée qui nous parlait d'à peu près, je pense, de 38% des gens qui voulaient voir Bruno Marchand rester à la tête de la ville de Québec. Quand on fait des petits calculs rapides avec d'autres sondages qu'on a eus dans les derniers mois, puis qu'on regarde, OK, Leadership Québec se place où, Respect citoyen se place où, là, on peut considérer que Bruno Marchand va avoir à peu près un 38% au moment où on se parle. Ça bougera peut-être un petit peu, mais si ce sont des gens qui veulent le voir rester, j'imagine que ce sont des gens qui vont voter pour lui. Comment on va faire du côté de Leadership Québec pour éviter la division du vote, puis ramasser le vote qui, en ce moment, est divisé avec Respect citoyen?
Terrain.
C'est le mot d'ordre.
C'est tout simple. Moi, je vais voir les citoyens, je cogne à leur porte, je leur parle, ils me posent des questions, je réponds. Et souvent, on me dit « Merci d'être venu me voir ». Et les gens ne viennent pas. Maintenant, je comprends un peu mieux. Je vais regarder qu'est-ce que M. Hamad offre. Je vais regarder c'est quoi votre offre et je vais probablement voter pour vous. Les gens apprécient ce contact-là un à un.
Les autres partis le font moins?
C'est rare que moi je rencontre des gens qui m'ont dit « oui, telle autre partie l'a fait ». On s'entend que la campagne a commencé il y a 3 jours, mais c'est grand des districts électoraux. Là. Ouais, moi, dans mon district, j'ai à peu près un 20 000 citoyens, un 15 000 portes. Tu peux pas faire le tour. Sérieusement, si t'en fais 10%, c'est bon. Okay. Si t'en fais plus que ça, c'est très bon. Fait qu'on essaye d'aller un petit peu partout dans tous les secteurs, voir ce que les gens ont à dire. Mais sur le terrain, c'est là que les gens sont. Et souvent, quand je pose la question, suivez-vous la politique municipale? Ouais, il y a une élection bientôt, là. C'est quand? 2 novembre. 2 novembre de cette année? Oui. Oh, OK. Il va falloir que je m'informe. Les gens sont pas autant que nous dans les médias à écouter, à relire tout ce qui se fait. Ils ont une vie à vivre et c'est pour ça qu'il faut aller les voir sur le terrain.
Louis Martin, conseiller municipal sortant du district de Cap-Rouge-Laurentien, maintenant candidat pour le Parti Sam Hamad Leadership Québec. Merci beaucoup.
Merci.
Audrey Pinchot s'en vient dans les prochaines minutes. Vous connaissez assurément le concept de FOMO, le Fear of Missing Out. Ben là, Audrey nous arrive avec un nouveau concept, la genre de peur de prendre des décisions. Puis ça, ben personnellement, je le vis dans bien des aspects de ma vie. Puis certains le vivront peut-être en allant voter en novembre prochain. Les conséquences de nos choix. Ben, hâte d'en jaser avec Audrey Pinchot, l'Open Mic s'en vient.
Le Point de Max. Le Point de Max.
11h04, 88-971-1021 pour nous rejoindre en studio par texto. 19 degrés, ça monte tranquillement mais sûrement à Québec. On attend 23 aujourd'hui avec 30% de possibilité d'averse. Demain, 20 degrés généralement ensoleillé. Jeudi, 20 degrés avec de la pluie. Puis après ça, ben, c'est un beau week-end qui nous attend avec des températures autour des 20 degrés et pas mal de soleil. J'ai envie de vous dire à la circulation, y a-t-il encore des problèmes dans le secteur des ponts? Oui! Ironiquement, ça aurait été un matin absolument terrible alors que hier, malgré la manifestation des camionneurs sur le pont Pierre-Laporte, ça a été super beau. Le matin, c'est tant que c'est jamais depuis genre 6h30 pour passer de la rive sud à la rive nord et c'est encore le cas en raison d'un accident qui a survenu un petit peu plus tôt là, à la sortie du pont Pierre-Laporte. Fait qu'à prendre en compte si vous avez à vous rendre sur la rive nord et que vous êtes sur la rive sud présentement. Audrey Pinchot, salut!
Hello!
Ça va?
Ça va très bien. Toi, comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Toi, comment tu vas?
Ça va bien, merci. J'ai de quoi te parler de...
Ah ouais, hein? Vas-y, jase-moi donc.
Est-ce que... Parce que là, à midi, c'est la pré-vente des billets pour MJK. Au Centre Bell.
Ouais. Tu pensais que c'était hier, hein?
Ouais, ben hier, finalement, c'est la pré-vente pour ceux qui ont la carte American Express. Et moi, j'ai pas ça. Fait que tant mieux, parce que là, hier, j'étais ça panique, parce que là, j'avais oublié. Là, quand je pars du studio, faut que j'arrête de parler à personne, faut que je m'en aille à mon ordinateur et que je sois prêt à me procurer des billets par terre. Mais justement, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Parce que c'est comme là qu'il faut que tu te décides.
OK, c'est une invitation officielle en onde, là. C'est vraiment...
Ouais.
C'est quand déjà?
Le 10 de décembre, de mémoire.
Je vais te dire que probablement que oui, je t'accompagne.
Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je cherche si je te pogne un billet.
OK, je prends un billet.
Yeah! Fait que c'est autour de 200$ à peu près de ce que j'ai compris, le billet par terre, pour être vraiment proche, là, tu sais.
OK, ben je t'en parle avant midi.
Ah ouais, OK.
Moi, j'ai une question pour les auditeurs. À quel point vous êtes tannés d'entendre Max parler de Machine Gun Kelly?
Bon, ben aujourd'hui, tu nous parles d'un autre artiste, un band qu'on aime beaucoup, Fall Out Boy.
Oh mon Dieu!
Tu m'as dit que tu nous parlais de FOB?
Ouais, non, c'est ça, c'est pas tout à fait ça. Mais écoute, je suis... T'es vite, par exemple.
C'est pas ça?
Je te le donne. Non, c'est pas particulièrement ça. C'est même un peu plus triste que ça.
Voyons.
Triste n'est pas le bon terme, en fait.
Ouais,
non, mais
non,
c'est plus
pas.
Réfléchi que Fall Out Boy.
Fait que c'est pas le FOB.
Non, c'est le FOBO, en fait. Ouais, ouais. Le FOBO qui est le Fear of Better Options. C'est un terme anglophone qui veut dire la peur de ne pas faire le bon choix. Fait que là, tu me donnes envie de parler de Fall Out Boy.
L'Open Mic. Just in time for Open Mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Je suis bon, hein?
T'es vraiment un petit comique. Hein? Oh, écoute, je l'ai pas vu venir.
Non, c'est. T'es fier, moi, quand ça m'est venu en tête.
Pendant 3 secondes, je me suis dit, est-ce qu'on s'est mal compris?
Ah ouais, beaucoup. Tes yeux étaient remplis d'incompréhension, Audrey.
Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, ça résonne énormément chez moi, puis clairement pas juste chez moi. C'est la peur de pas faire le bon choix. Êtes-vous de même? 88-971-1021. On dirait que c'est le mal du siècle, comme on aime l'appeler.
Ben, en fait, Le mal du siècle, on dirait que je l'associe beaucoup au fameux FOMO.
Ben, en fait, c'est interrelié,
ouais,
je pense.
Oui, je pense que oui. Le FOMO, c'est le fear of missing out. Tout le temps, la peur de manquer quelque chose. Puis
exactement.
Ça, moi, c'est mon mal du siècle, en tout cas. Moi, il faut tout le temps choix partout. Même s'il y a 2 shows en même temps, il faudrait choix aux 2, mais c'est pas vraiment possible.
Le FOMO, c'est ça, l'espèce de peur de rater une expérience, de passer à côté de sa vie. Puis le FOBO, ben, c'est la peur de mal choisir. Fait que tu comprendras que c'est un peu interrelié au final. Là. Donc le FOBO, si vous venez de vous joindre là, Fear of Better Options, ce sont des termes anglophones, vous comprendrez. Puis c'est qu'on devient paralysé de toutes les petites décisions du quotidien parce qu'on voit ça trop gros. Il faut se le dire, on a quand même une abondance d'options aujourd'hui. Là. On est chanceux. Là. On a des possibilités dans le monde actuel et plus il y a de choix, ben plus on doute, plus on a peur de regretter.
Puis ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quoi, là.
Oui, puis c'est aussi le côté ingrat qu'on a toujours l'impression qu'il existe mieux ailleurs. Tu sais, le fameux « le gazon est plus vert chez le voisin
oui. ».
Fait qu'on dirait que toute option que tu prends, c'est comme si tout d'un coup, tu te dis « Hey, mais d'un coup, que c'est pas la meilleure option qui existe. »
Ben ça, j'ai l'impression peut-être de beaucoup le vivre dans le dating.
Ah!
Tu sais, est-ce que j'ai de la misère à m'engager, puis j'ai peut-être, c'est peut-être parce que je me dis, OK, mais là, si je m'engage avec cette personne-là, c'est parce que c'est très sérieux, c'est parce que je peux pas aller ailleurs, c'est parce que... Fait qu'il faut que ce soit la meilleure option du monde, puis qu'il n'en existe pas d'autre.
Mais tu vois-tu comment c'est fascinant qu'un partenaire potentiel soit rendu une option? Faut que ce soit la meilleure option. J'imagine que ce soit la plus belle personne, selon toi, les plus belles valeurs, les plus beaux projets, les plus beaux.
Que ce soit parfait.
C'est angoissant quand tu y penses. Là. Parce que c'est quoi le pire qui peut arriver, Max?
Ben, qu'à un moment donné, je vois quelqu'un de mieux puis je me dise « Ah, j'ai pas fait le bon choix. » Mais c'est pour ça que je m'engage pas dans la vie. C'est parce que tout le temps, je garde la porte de « C'est peut-être pas la meilleure personne. » Mais à un moment donné, peut-être que je me dis « Quand je vais rencontrer la bonne personne, peut-être que j'aurai pas ce problème-là parce que je vais sentir que c'est la bonne personne.
Mais je suis pas d'accord parce que tes sentiments sont floués par le fait que tu as toujours des options et des options et des options. Puis il y a deux... pourquoi c'est devenu un phénomène de société, le FOBO, la peur de prendre les mauvaises décisions? Il y a deux points principaux, puis j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis. Un, surstimulation. Fait que ce soit par les réseaux sociaux, le fait qu'on a un choix illimité, justement, le dating, ça s'applique.
Avec le Tinder.
Absolument.
Du choix illimité, tu ouvres ton application, puis avec ton pouce, tu peux voir oui.
Puis tu dois prendre des décisions rapides, puis on se le dit, ce genre d'application-là.
Moi, je prends pas de chance, c'est des likes tout le temps, puis je fais le tri après.
Ah ouais, hein?
Ben, c'est pas vrai, là. Des fois, je vais vite un peu, puis je fais le truc après, mais...
C'est drôle parce que les filles, on est totalement à l'inverse. Ouais. C'est pas mal plus de non que de oui.
Je sais, c'est rare, j'ai des matchs.
Écoute, va falloir faire une autre chronique là-dessus. Deuxième point, à part la surstimulation, la pression de la perfection. Fait que peur de se tromper, peur de l'échec, tu l'as nommé. En même temps, encore une fois, c'est quoi le pire qui peut arriver? T'es vraiment pas bien dans ta relation, finalement, tu ressens pas de désir, de besoin de projet, tu laisses ça aller. En même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Il y a des émotions qui rentrent là-dedans.
Puis ça peut être vrai à l'inverse. T'sais, moi, je le vis avec la difficulté à décider, OK, je vais all-in avec telle personne. Mais de mettre fin à une relation, ça peut être la même affaire, là, de dire, OK, c'est-tu elle, ma personne?
Je vais-tu regretter?
Ou si je vois... C'est vrai dans les deux sens.
Ah oui, non, mais écoute, puis ce que tu nommes là, ça me fait rire parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Puis en consultation, en psychologie, c'est probablement un des sujets les plus abordés. Comme si tu vas consulter puis que la TS ou le psy devant toi va être capable de dire « fais ça ». C'est un cheminement qu'on doit faire nous-mêmes, mais c'est comme si on n'était pas capable de le faire. Je sais pas, trop de pression, trop... Puis les réseaux sociaux puis la culture de la performance font en sorte qu'on ne se satisfait pas de ce qui est juste bon pour nous. À un moment donné, il y avait eu cette mode-là du « good enough ». C'est beaucoup des termes anglophones, vous comprendrez, là. Mais, hey, si t'es bien, si c'est assez pour toi, t'as ton propre barème, là. On n'a pas toutes les mêmes limites, on n'a pas toutes les mêmes besoins.
C'est quoi « assez »
Ben, c'est ça le problème, Max. C'est que c'est comme si, en ce moment, c'est quoi assez selon la société, mais c'est parce que c'est pas ça le point, c'est quoi assez pour toi.
Mais même moi, je sais pas qu'est-ce qui est assez.
Mais
si
mais
je suis super bien,
personnel.
Moi, je le ramène tout. Tu viens-tu me dire que j'ai des problèmes?
Non, je veux pas dire ça, là. Je pense qu'on en a tous, par exemple, si on se dit vraies affaires.
Tu m'as dit, t'as un problème personnel.
C'est un problème personnel. C'est un problème à regarder de façon personnelle.
Avec de l'aide psychologique, peut-être.
Potentiellement. Puis, ce qui est spécial là-dedans, c'est qu'on cherche tellement l'option parfaite, comme tu dis, qu'on finit par rien choisir pantoute. Il y a beaucoup de monde qui vont préférer le statu quo, qui vont préférer
comme les Québécois qui n'osent pas se donner un pays.
Ouf! Hey, t'es pas avec la bonne personne, moi je me lance pas là-dedans matin. Là.
Moi non plus, c'était une blague. On poursuit.
Non, mais c'est vrai pareil.
Mais pas faire de choix, c'est un choix.
Mais exactement. Le pire, c'est que tu mets le doigt dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer naviguer à travers leur vie, se laisser porter par le courant, parce que de ne pas prendre de décision, c'est plus facile pour eux que de trancher, autant pour des grosses que pour des petites. Mais l'affaire, c'est que ça finit par nous empêcher de vivre des expériences. Puis moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'éternel insatisfait. Parce qu'après ça, tu roules dans ton tourbillon. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Tu t'installes le soir avec ton popcorn, puis tu as pour but de choisir une série ou un film Netflix. Finalement, tu passes 45 minutes, une heure à essayer de trouver ton film pour regarder 10 minutes parce que t'as passé tout ton temps à essayer de choisir,
là, on est dans
de prendre une décision.
On est dans le très léger là, avec le film Netflix, mais ça image bien qu'on est tellement rendu surstimulé que dans n'importe quel aspect de notre vie, on n'est pas capable de décider.
Les micro-choix du quotidien, ça devient un drame. Ça devient tout le temps trop intense pour rien. Ça devient trop gros pour rien.
Genre, quelle pizza je mange pour souper? Même pas qu'est-ce que je mange. Quelle pizza? J'ai deux sortes. Puis là, je ne sais pas quoi, laquelle prendre. Je prends-tu la Deluxe ou je prends la 4 viandes? 4 fromages?
Tout ça. Tu m'as déjà entendu au restaurant dire au serveur, surprise, choisis. J'hésite entre ça, pis ça. Surprise!
Je t'aime beaucoup au restaurant, je t'haïs. T'es la pire personne avec qui... Puis je le sais, puis je me prépare mentalement quand on va au resto
je
ensemble.
Fais des efforts en plus,
au moment où le serveur ou la serveuse va arriver puis va te demander de commander. Puis à toutes les fois, je suis gêné.
Mais c'est ça qui est niaiseux. Je pose beaucoup de questions.
Pour finir en disant... surprise!
Mais, tu sais, c'est niaiseux, là. Je vais être sûre de mon choix. Je sors pas souvent, mettons, dans un restaurant qui va coûter beaucoup de sous. C'est
tu
comme
fais
si
pas juste ça
sûre...
d'un restaurant qui coûte beaucoup de sous au Drépin Show.
C'est comme si, pour être sûre de profiter de mon expérience au maximum, c'est ça, je veux pas me tromper. Fait que, c'est rendu un phénomène de société. Je trouve que le phénomène de société, aujourd'hui, le dos large, là, je veux dire, on rentre l'anxiété là-dedans, on rentre tout là-dedans, là, mais je me demandais à quel point c'était répandu. Fait que je me suis tournée vers vous autres, les auditeurs, les gens que je côtoie au quotidien, je me suis tournée vers Instagram. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un petit sondage avec à peu près une douzaine de questions. Je vais te poser ces questions-là, Max, parce que j'ai le goût d'avoir tes réponses. Puis je trouve ça fascinant de constater que c'est généralisé, cette peur là de faire le mauvais choix. Puis peur est le mot-clé ici. On a peur de quoi, motadine? Je trouve ça complètement fou. Puis quand j'étais au cégep, là, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un sur mon parcours qui a terminé son ATM, le programme qu'on a fait à la technologie des médias. Lui, il était rendu qu'il travaillait à RDS. Tu comprends? C'était son rêve de petit cul de travailler dans le milieu sportif. Puis il a décidé qu'il lâchait tout pour vivre en marge de la société puis faire le tour du monde. Il n'y avait pas une scène. Là. Il revenait travailler de temps en temps dans l'année, se faire un peu de sous, mais il faisait de l'échange. Il allait dans des hôtels jeunesse, là, puis il faisait, mettons, la vaisselle contre une nuit, tu comprends? Puis il faisait le tour du monde, puis il avait pris la décision de... Je lâche le day-to-day, puis je vis. Et j'ai tellement admiré cette personne-là. J'ai tellement rêvé, Max, de faire ça. J'ai la chienne. Voyons que je quitterais ma job, que je quitterais mon cadre de vie. Puis là, il faut que je rencontre quelqu'un, puis j'ai une famille, puis des enfants, tu comprends? Puis on dirait qu'il y a comme un dessin qui est tracé devant nous autres. Puis c'est comme si la peur fait en sorte que tu restes dans ce cadre-là.
Mais là, en même temps, ça je pense que...
C'est gros comme exemple.
C'est ça. On est passé du micro-exemple de choisir ton film sur Netflix.
Mais tout ça, c'est des choix, au final, de vie que tu fais. Selon toi, si moi, je rêve de faire le tour du monde, mais je suis pas capable de me donner à go parce que j'ai la chienne de ce qui peut arriver, ça reste un choix que je fais pas. Ça entre dans le concept du phobo, finalement. Ouais. As-tu peur de prendre des décisions dans la vie, Max?
Ben moi, comme je le répète, mais moi, c'est beaucoup le domaine amoureux parce qu'en général, je considère que ça va assez bien. Mais encore là, une décision, puis là, ça rentre dans le faux mot, encore une fois, le fear of missing out. Un vendredi soir, j'ai le goût de sortir au bar. Je reste-tu chez nous? Je vais-tu au bar? Ça peut être tough jusqu'à la dernière seconde.
Le faux mot, je vais t'en parler tout de suite. En passant, 66 % des gens ont peur de prendre des décisions dans ceux qui ont répondu. Les gens qui ont peur de passer à côté de quelque chose, le fameux faux mot dont tu parles. 27 % des gens, tout le temps. 63 % des gens vont parfois avoir peur de passer à côté de quelque chose et il y a un 10 % des gens qui n'ont pas peur, pas entre eux autres. Là. Qui êtes-vous? Faut qu'on se parle, faut qu'on se rencontre, faut qu'on s'inspire. Ah,
moi, ça, c'est... Puis je le disais en ouverture, là, mais le faux mot, quand je suis quelque part, une soirée de job, j'ai beaucoup de misère à ne pas être le dernier parti. Là. Puis c'est problématique avec mon horaire du matin. Là. Mais...
Tu veux tout vivre?
Si... J'ai une hantise d'arriver à la job le lendemain puis de me faire raconter qu'il y a quelque chose de malade qui s'est passé cinq minutes après que je sois parti. Ouais. Ça serait pas grave, là.
Mais non, c'est tellement
épais. Je l'aurais juste pas... Ou, mettons, aller à un show. Puis ça, c'est une maladie un peu que j'ai aussi de devoir être à tous les shows qu'on peut peut-être... Moi, c'est le Fear of Missing Concert. Fait que F, j'ai le foam ici.
T'as inventé ça?
C'est le FOMC, Fear of Missing Concerts.
OK.
Et
ça s'adapte, tu vois.
Même des bands que j'ai pas tant envie de voir ou faux choix-là, mettons qu'il se passe de quoi de malade à ce show-là.
Tu veux l'avoir vécu.
Oui.
57 % des gens qui ont répondu à mon sondage disent que prendre une décision, c'est difficile pour eux. Micro-décision comme grosse décision, difficile à 57 % malgré le fait que ce soit difficile, je me demandais est-ce que les gens aiment ça, parce que moi, c'est difficile pour moi de prendre une décision dans la vie de tous les jours, mais je préfère avoir le choix. Fait que j'aime prendre des décisions, même si je trouve ça vraiment tough.
Sauf au restaurant. Ou ta décision, c'est toujours fais-moi une surprise.
54 % des gens aiment pas prendre de décision et préfèrent laisser les autres le faire. C'est quand même problématique, là.
Ouais. Ben, je suis un peu dans ce gang-là, quand même.
Ah, toi, je sais.
Ouais. De, comme on va souper où? Je sais pas, moi. Choisis,
ouais,
on va souper où?
Ouais, toi, t'es plus
où,
un
là?
Suiveur. Mais pas dans le mauvais sens, mais dans le sens que t'es pas bien difficile. T'embarques dans
Sauf
le bateau.
Si tu me demandes, on sort où? Là, je te dis au karaoké.
Dans quelle sphère de ta vie c'est le plus difficile de prendre des décisions? Il y avait trois choix, personnel, professionnel ou les deux?
Ben, moi, c'est sûr que amour rentrerait dans personnel, donc ce serait personnel.
Fait que c'est plus facile pour toi de prendre une décision au niveau professionnel. Si t'avais quitté, mettons, demain matin la radio, tu trouverais ça plus facile de prendre cette décision-là?
Ben, à l'inverse, en fait. Moi, je trouve ça facile de rester ici parce que je serais pas capable de partir.
Mais tu
c'est
vois,
l'inverse.
Tu prends pas de décision. Fait que tu rentres dans le fameux statu quo.
Ben
à
non,
ce
mais ma décision, c'est de rester ici. Ouais. Je pense pas à sacrer mon camp, là. C'est une décision de vouloir rester ici.
43 % des gens trouvent que c'est dans le personnel que c'est le plus difficile de prendre des décisions parce que veux pas, ça impacte l'entourage, la famille, les gens que t'aimes. 21 % dans le professionnel. Et pour 36 % des répondants, c'est les deux. Fait que n'importe quelle décision l'est. Est-ce que tu consultes ton entourage avant de prendre une décision? Le besoin de connaître leur opinion?
Non, moi, de toute façon, avec mon trouble de l'opposition, je ferais le contraire.
Tu ris, mais ça, par exemple, c'est un truc, hein? Moi, ça va arriver souvent que je vais demander l'opinion des gens parce que ce qu'ils vont me dire va me faire réagir. Je suis une fille beaucoup, beaucoup d'instinct. Fait que si, quand tu me dis, ben oui, mais fais ça, je le sens pas, ça me donne un peu une voix. Tu comprends ce que
oui,
je veux dire?
Il y a des gens qui aiment ça, me demander mon opinion parce qu'ils savent que ça va sortir franc, puis il y en a qui aiment pas ça me demander mon opinion. Quoi? Pourquoi tu me regardes de même?
Ça sort franc, toi, quand on te demande ton opinion?
Ben, ça dépend avec qui. Attends, j'ai des amis avec qui ça sort très franc. Avec toi, tu trouves-tu pas franc?
Non, pas nécessairement.
Ben, c'est ça.
Mais je trouve pas que t'es ce genre de personne-là qui...
En privé, oui. Si tu me demandes quelque chose...
Manque de tact ou qui... Tu sais, qui...
Ah, moi, ça a été un gros... J'ai peut-être travaillé là-dessus sans le vouloir,
ouais.
Mais je me le faisais reprocher beaucoup par des amis là, qui me disaient « T'es pas honnête, t'es juste méchant. »
Hey, bye bye.
J'ai déjà fait dire ça
toi,
par une bonne amie.
Je lis les textos. Il y a des gens, on a des éditeurs qui font partie du fameux 10 % qui sont pas, qui se sentent pas impliqués par cette peur-là de prendre une décision. Il y a Ruben sur le Twitch qui dit « Le monde se complique vraiment trop à vie. » Il y a peut-être ça aussi, pour vrai. Il y a peut-être ça. Mais ça fait partie un peu de l'anxiété. T'sais, on parle du mal du siècle. On n'arrête pas d'en parler d'à quel point l'anxiété est présente en ce moment dans notre société à différents
à cause
niveaux.
Des Tylenol. Ah non, ça, c'est pas
non, c'est ça, c'est pas le même dossier. Donc, il y a 66 % des gens qui vont avoir un besoin de consulter leur entourage avant de prendre une décision. 34 % des gens qui sont capables de se fier sur eux autres, pas besoin de consulter qui que ce soit. Quand tu as plusieurs options dans un choix, est-ce que tu es capable de trancher rapidement, t'hésites longtemps ou tu préfères juste pas choisir? 64 % des gens vont avoir besoin de temps, vont hésiter longtemps, ça va être dur, vont avoir besoin de faire des pour, des contre. 31 % tranchent rapidement et encore un 5 % qui préfèrent ne pas choisir, donc se retirer de l'équation.
C'est intéressant le texto, mes meilleures décisions ont été prises sur un coup de tête.
Ben, c'était ma prochaine, ça. Est-ce que tu prends des décisions de façon instinctive ou rationnelle?
Moi, je suis un gars d'instinct. Mais ça peut être long. Fait que, tu sais, mon instinct, des fois, ça prend du temps avant qu'elle se place, là. Avant qu'il se place. Mais je pense plus à un gars d'instinct que de grande réflexion.
Moi, très instinctive. Je le sens dedans. Des fois ma tête et mon cœur sont pas d'accord. C'est-à-dire que ma tête va être un peu plus rationnelle. Mais il y a un gut feeling qui est très présent. Mais tu vois, parmi les répondants, en majorité, les gens vont prendre des décisions de façon rationnelle. Donc, vont prendre le temps de se poser. On est à 62 % de ce côté-là. Un 38 % qui va de façon un peu plus instinctive. Est-ce que tu... le FOMO, on a beaucoup parlé. C'est comme un peu... c'est relié au final, là. Encore une fois, toujours sous le règne de la peur. Qu'est-ce qui te bloque le plus quand tu dois choisir? Est-ce que c'est la peur du regret, le fait qu'il y ait trop d'options, un manque de confiance peut-être en toi, ou la pression extérieure?
Ben c'est de prendre la mauvaise décision, donc le regret, mettons.
43% des gens, ouais, c'est la peur du regret.
T'as peur de regretter le choix que t'as fait.
Effectivement. En deuxième position, c'est le manque de confiance qui entre en ligne de compte, ce que je trouve tragique, là, à quel point t'es pas capable de te fier sur toi-même. Y en a pour qui c'est le fait qu'il y ait trop d'options, ça les bloque dans le fait de choisir, on est à 21%. Et la pression extérieure à 6%. Fait que peur du regret, manque de confiance, c'est ce qui revient le plus. Puis ça, ça me fascine, parce que pourquoi on manque autant de confiance en nous, autant de confiance en nos moyens? Y a plusieurs... réponse à cette question-là.
Moi, c'est parce que je me fais beaucoup intimider au travail. Là.
Tu fais pitié, oui.
Vous pouvez l'entendre. Ça fait deux matins que ça a l'air que là, le pit stop avec Gravel, là, les 15 premières minutes, c'est rendu, on tape ça à tête à max. Là. C'est le nouveau concept, ça a l'air.
Ah, mais là, franchement, t'es habitué. Là. T'es arrivé dans Gravel dans le retour, tu te faisais taper ça à tête, tu te
ouais,
faisais ramasser.
Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'on était rendu ailleurs.
Mais Max, t'as une carapace. Hey, si on vaut pas une raison, on vaut pas grand-chose.
Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, elle casse tout le temps sans la même personne.
Tu trouves ça difficile?
Ouais.
Veux-tu qu'on en parle? Veux-tu que je passe le message cet après-midi?
Non, c'est correct. J'ai déjà fait ma plainte au RH.
OK. Donc, le manque de confiance, ça vient de plusieurs places. J'ai parlé avec ChatGPT, c'est mon grand chat au niveau de la psychologie quand j'ai pas de psy à qui parler. Les réseaux sociaux, on en a parlé. L'espèce de principe de vie parfaite, qu'il n'y a pas de réalité brute, si on peut dire ça comme ça. Le fait qu'on se sent toujours insuffisant. Économie, incertitude, ça revient. Le fait que chez la plus jeune génération, il y a comme un sentiment d'impuissance face aux choix que tu peux faire parce qu'on est limité. Fait qu'il y en a qui ne sentent pas qu'ils peuvent construire une vie un peu sur mesure pour eux, donc le choix devient difficile si on veut. L'hyperstimulation, on en a parlé, l'éducation rentre là-dedans, le manque d'ancrage identitaire. T'sais, ça, on en a jasé un peu avec Guillaume Dulude hier. Le fait qu'on a de la misère à savoir exactement c'est quoi notre rôle dans la société.
Ancrage identitaire, c'est très ChatGPT comme mot.
C'est très ChatGPT.
Pas toi qui as sorti ça.
Moi, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi nous manquons autant de confiance pour prendre des décisions en 2025.
Une chance que tu l'as dit avant, parce que ancrage identitaire, j'aurais dit Audrey Pinchot, t'as pas inventé ça.
Je parle un peu plus relax que ça quand même. Là. Bref, notre époque affaiblit nos repères internes. C'est un peu ce qu'il faut retenir.
Ça, c'était-tu toi?
Absolument.
Notre époque affaiblit nos repères internes.
Je trouvais ça beau.
C'est toi qui...
Absolument. Ce matin, j'écrivais, puis j'étais en train de... Moi, honnêtement, quand je me force, là, de temps en temps, je l'ai.
Tu me jures que cette
phrase... Jurée sur ma tête. Mais elle
bravo.
Vient de moi, celle-là.
Mais bravo.
C'est bon, hein?
Oui.
T'as-tu souvent regretté des décisions que t'as prises? T'as peur du regret? C'est arrivé souvent?
Non, parce que j'ai l'impression que... Puis là, je reviens encore à mes maudites relations pas si amoureuses que ça, finalement. Mais que... Du moins, c'est peut-être comme ça que j'essaie de me convaincre que je ne l'ai pas encore trouvé la bonne. Tu sais, que quand...
Mais il faut que tu essaies, Max, pour savoir. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, me disait, Audrey,
ah, mais
y a
j'essaie.
Plein de sortes de biscuits, il faut que tu les goûtes pour savoir c'est lequel ton préféré.
Oui, ta mère te disait ça.
Ma mère me disait, je ne sais pas, je l'ai faite, mais ma mère me disait ça.
OK, c'est quel tes préférés? L'érable?
Tu es une grande fan d'Oreo, je te dirais, là. Mais sincèrement, c'est vrai pareil. Si tu fais pas des tests puis t'attends juste d'avoir la meilleure affaire possible, c'est parce que t'as pas de balise à ce moment-là,
ah,
t'as pas de critères.
Mais je n'ai vu des femmes, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai pas nécessairement de regrets, parce que je me dis, garde, si j'ai... Parce que j'essaye dans une certaine mesure, mais c'est juste qu'à un moment donné, t'as pas le choix de dire à la fille comme, hey, ça le fera pas, mais intérieurement, peut-être que des fois, tu te dis un petit peu, ben, on aurait dû continuer, puis mais je... En ce moment, je pense pas que j'ai ça en tête de grands regrets. De, ah, avec elle, j'ai mis fin à ça, mais ça aurait peut-être pu.
Je trouve ça intéressant parce que quand j'ai posé la question, les répondants ont répondu que à 61% que non, ils n'ont pas souvent regretté des décisions. Puis je trouve ça ironique parce que à la question avez-vous peur de prendre des décisions? Ben, la réponse était oui en majorité. Mais au final, ouais, rarement tu prends des regrets. T'sais, rarement tu les as, ces regrets-là. J'ai envie de passer directement au truc que j'ai demandé aux gens. Parce que bon, beaucoup avaient peur justement des impacts du regret. Fait que c'est quoi les meilleurs trucs que vous utilisez au quotidien pour vous aider à décider? Une couple d'affaires qui sont revenues, puis je vous ai comme rassemblé ça dans ce qui revenait le plus souvent. Me fier à mes valeurs et principes. oser prendre le temps. Il y a des gens qui se pressent trop pour prendre des décisions. En parler, évaluer les impacts sur le long terme, choisir le plus vite possible pour éviter de trop réfléchir. Ça, ça m'a fait rire. Ça revient tantôt à ce qu'on disait. C'est-tu une décision que tu vas prendre avec un gut feeling ou tu vas prendre le temps de te poser?
Ben, moi je t'ai déjà sûrement raconté comment j'ai fait mon choix en ATM entre le programme de radio puis de journalisme.
Qu'est-ce que tu avais fait?
Littéralement un pile ou face. Le matin du choix, je n'étais pas capable de choisir. J'ai demandé à quelqu'un, hey, t'as-tu un 25 cents? Puis j'avais la feuille en avant de moi, puis j'ai fait un pile ou face.
Arrête donc, oui.
Ouais.
Puis t'étais capable de bien vivre avec la décision, puis.
Ouais, parce que j'aime faire de la radio, puis à cette heure, je me dis, j'aurais été un très mauvais journaliste. Quoique c'est un peu sur que je fais des nouvelles, là, mais c'est différent. Je suis très content d'être tombé sur radio, mais à cette époque-là, à base, j'allais en ATM pour être le prochain Pierre Hood, comme tout le monde, comme Gab Marino qui
comme
voulait aller là,
mais
qui a été refusé.
Mais t'aurais pu faire une liste de pour et de contre, ce qui est revenu beaucoup, beaucoup dans les options que les éditeurs ont donné.
Non. Liste de pour et de contre, ça fait juste rajouter de la complexité. Puis là, tu te ramasses à analyser, OK, mettons qu'il y a 3 pour, 6 contre. OK, mais là, les 6 contre sont-tu plus légers que les 3 pour?
Mais je pense que ça te permet quand même de te recentrer sur qu'est-ce que toi, tu veux, tu sais. Envisager le pire pour évaluer mes réactions et prendre le choix le plus facile. Fait qu'il y a des gens qui vont aller vers la facilité aussi. Je vais terminer avec ça, Max, parce que ça m'a comme fait de la peine de vous lire, là, moi, être bien honnête. Là. J'ai posé la question aux gens, si tu n'avais pas peur de faire le mauvais choix, tu ferais quoi? Demain matin, là.
Ah.
T'enlèves la peur, là. T'enlèves toute possibilité de regret. Là. Qu'est-ce que tu oses faire? J'en ai gardé quelques-uns anonymes, mais je vais saluer, par exemple, Martin qui dit « Moi, je retournerai à l'école. » François qui dit « Moi, je changerai de job demain matin. » Steve, « Je changerai de pays pour oser vivre autre chose. » Lui, c'est un de ses rêves, mais il n'ose pas le faire parce que, crime, il y a tellement de choses à prendre en compte. « Oser prendre une pause professionnelle parce que je suis à bout. » C'est triste, ça, là. Pas capable de se donner un break mental par peur de recommencer ma vie à zéro, quitter mon couple.
Ah ouais, quelqu'un t'a dit ça?
Oui. Si tu n'avais pas peur de faire le mauvais choix, qu'est-ce que tu ferais demain matin? Quitter mon couple.
Wow.
Ça démontre quand même d'un malheur que tu as au quotidien. Là.
Oui.
Un enfant. Reprendre contact avec certaines amitiés. Fait que tu vois dans quoi ça tourne. Là.
Faites-le! Vivez, les amis! Prenez les décisions!
Ce que je retiens, puis le but, c'est pas de faire un gros speech de motivation le matin, mais ce que je retiens de ce que vous m'avez partagé, c'est qu'on passe à côté de notre vie en maudine, là, de peur de déranger, d'impacter les autres. Mais tu sais, égoïstement, là, puis peut-être là, en fait, mon petit côté, mais on n'a pas beaucoup de temps sur Terre, les chums, là. On peut-tu arrêter d'avoir peur, puis définir nos besoins personnels, puis trancher, tu sais? Puis les faire, ces choix-là. Fait que non, j'ai trouvé ça super intéressant de vous lire, d'échanger avec vous là-dessus. C'est le principe du fameux phobo dont on parlait, la peur de faire des choix. Fait que tu sais, c'est de se poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est-tu réversible? Puis au final, est-ce que tu préfères prendre une décision que tu pourrais regretter ou ne jamais prendre de décision puis rater des opportunités?
Puis ça, c'est-tu ta phrase à toi?
C'est absolument ma phrase à moi. C'est quelque chose que je me pose souvent comme question.
Audrey Pinchot qui est venue nous parler du mal du siècle, le FOB.
Tellement niaiseux.
Mais attends, là, celle-là va encore plus loin que la première fois. Es-tu capable de déceler la profondeur? Mal du siècle, Centuries,
bravo.
FOB.
Bravo.
Merci beaucoup, Audrey.
Hey, salut.
Tu reviens n'importe quand, mais surtout toute la semaine, à peu près à 11h, idéalement.
Oh, mais bon, je pense au
théâtre. Non, je t'attends pas mal tous les jours à 11h.
À demain.
Merci, à demain. Au retour, c'est Pascal CV qui vient faire son tour. minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Dans les nouvelles qui font réagir ce matin, il y a le candidat de Leadership Québec dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, Napoléon Roux, qui s'est retiré de la course après la controverse le concernant. Et il était de passage ce matin dans Marceau le matin. Et je vais vous faire entendre un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Yann et Jeff dans les prochaines minutes. Mais d'abord, avant de recevoir des plaintes, calmez-vous, elle est là en studio. Pascal CV, salut.
Salut Max, il nous reste 3 jours. 3 jours après, on se retrouve en octobre quand les feuilles commenceront à tomber.
Parce que là, on est mardi.
On est mardi. Oui.
T'es là demain et jeudi.
Exact.
Vendredi, t'es pas là.
Exact.
OK.
Vendredi, je décolle vers l'Afrique.
À quelle heure?
18h de Montréal. 18h50, si je me
trompe. Ah, ben là, t'as le temps de passer me voir avant.
Non, c'est ça. Je serai pas là. Mais non, écoute.
Tu pars à quelle heure à Montréal?
Je pars jeudi.
OK.
Donc, je veux vraiment avoir une nuit de sommeil. Sûrement la dernière confortable, la dernière qui sera pas sur un matelas de sol pendant 10 jours dans la roche. Fait que je m'en vais dormir confortablement à Montréal, manger mon dernier repas. Ça me fait bien rire, moi, ça. C'est un peu comme le...
Ton dernier repas, ouais. C'est dramatique, hein?
Moi, j'aime ça dire ça de même. Mes parents trouvent ça moins drôle.
Tu vas manger beaucoup de barres tendres dans ta montée,
écoute,
de ce que j'ai compris.
Hier, là, je triais mes bagages parce que finalement, ben, ma limite de poids est un peu plus haute, là. Puis on va en parler tantôt ce midi. Joannie vient dans l'émission avec Jeff et moi, okay, pour jaser de tout ça. Mais j'ai trop de choses. J'avais peur de mal manger.
J'en doute pas.
Fait que tu comprendras que j'avais mis du poids là-dedans dans la nourriture. Faut que j'en enlève.
OK, bon. Bon, mais en attendant, on va continuer de faire notre travail,
exact,
Pascal, et d'informer les gens dans le Point de Max. Je vous parlais de la nouvelle de Napoléon Hou. L'extrait de l'entrevue s'en vient. Autre nouvelle qui fait jaser pas mal dans les dernières heures, le Bureau des enquêtes indépendantes, le fameux BEI, qui enquête sur une opération policière qui a mené à la mort d'un adolescent de 15 ans à Longueuil dimanche. Et ce matin, le BEI tenait un point de presse là, pour nous informer sur les derniers développements.
C'est du rarement vu. Le BEI qui fait un point de presse pour parler d'une situation, là, Max, je te dis, ça n'arrive pas souvent. Quand on dit jamais dans 100 ans, c'est un peu jamais dans 100 ans. Pourquoi? Parce que justement, on est indépendant, c'est un petit peu underground, on fait ça de notre côté. Puis on rappelle aux gens de Longueuil en ce moment à quel point c'est important justement que ça reste au sein du BEI. On en reparlera. Juste pour rappeler l'histoire aux gens qui nous écoutent, peut-être que vous avez manqué ça, mais image très difficile à voir d'un parent éploré, d'une famille qui vient de perdre leur adolescent de 15 ans. Ce qui s'est passé, c'est que dimanche, leur adolescent de 15 ans est allé au parc avec une gang d'amis. Et
une bonne gang.
Pour une raison qu'on ignore encore, il y a eu altercation policière. Donc, les policiers sont arrivés et le jeune avait un sac à dos avec lui. Il a voulu chercher dans son sac à dos. Puis à ce moment-là, les coups de feu de la part du policier de Longueuil ont entré en contact avec son corps. Il y en a eu un premier, il est tombé au sol, puis il y en a eu un deuxième. Lui aussi, on se pose la question pourquoi il y en a eu un deuxième à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une arme qui a été saisie. Cette arme-là appartient au policier, donc
pour
c'est
l'enquête.
Son arme de fonction, de service, qui sera expertisée effectivement. Mais le jeune n'avait pas d'arme, il avait juste son sac à dos.
Mais c'est ça, puis la nuance un peu, non, en effet, il n'y avait pas d'arme, mais il y a des appels qui étaient entrés au 911 qui parlaient de la gang de jeunes, mm-hmm, puis de ce qu'on comprend, il y a du monde qui pensait qu'il était armé. Fait que les policiers avaient comme information que ces jeunes-là étaient potentiellement armés.
Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voyait, en fait, c'est qu'il y avait des cagoules, des bâtons de baseball, d'autres effets qui ont été aperçus. Et on est aussi en attente d'expertise pour savoir, notamment, l'arme à feu balistique, celle du policier. Bon, qu'est-ce qui en est dans tout ça?
Fait que ce qui est arrivé probablement, puis l'enquête saura nous le dire, c'est quand le jeune a mis ses mains dans son sac pendant qu'il y avait des policiers autour qui étaient prêts à intervenir, ben quand le policier a l'information que les kids sont potentiellement armés, puis lui met ses mains dans son sac...
Il n'a pas pris
ben,
de chance, croyant qu'il allait peut-être sortir une arme à ce moment-là. C'est sûr que c'est absolument tragique. On aura plus d'informations. Il faut faire confiance, justement, aux gens qui font cette expertise. Et je rappelle de façon indépendante. Hein. Elle est ni pour le service de police, ni pour la population. C'est indépendant. Point de presse ce matin qui était donné par la directrice du BEI, Brigitte Bishop. Voici ce qu'elle avait à dire.
Nous avons saisi une arme à feu. Nous avons saisi un sac à dos. Nous avons saisi des cagoules, bâtons de baseball et autres effets. Et nous sommes en attente aussi d'expertise. Nous allons faire expertiser notamment l'arme à feu par la balistique et d'autres et les autres effets. J'invite la population ou les gens qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, qui possèdent des éléments de preuve, de communiquer avec le BEI. Présentement, on entend sur le terrain qu'il y a peut-être une certaine incompréhension sur le rôle là, du Bureau des enquêtes indépendantes. Je peux vous assurer que notre bureau est un bureau indépendant. Nous sommes impartiaux et notre mission est de faire la lumière sur les événements. Pour faire la lumière, nous avons besoin des éléments de preuve les plus... qu'on obtient de façon la plus rigoureuse. Donc, nous voudrions pas que certaines personnes se rendent compte ou altèrent des éléments de preuve. Donc, si des gens ont des choses à dire, ont vu des choses, je le répète, communiquez avec le Bureau des enquêtes indépendantes.
ont un dossier qu'on va clairement suivre.
Oui, puis pourquoi à la fin c'était ces propos-là? C'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire leurs enquêtes. Tu sais, les enquêteurs les enquêteurs de la population, tiens.
Merci beaucoup, Pascal. À demain.
À tantôt. Bye.
Et comme promis, je termine le point de Max aujourd'hui avec un extrait de l'entrevue qui a été donnée ce matin par l'ex-candidat de leadership Québec dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, Napoléon Hou, qui s'est retiré après des propos controversés. Ça a beaucoup fait réagir ce matin. Donc, je vous fais entendre quelques petits bouts. Merci d'avoir été là dans le point de Max. Jeff Fortin s'en vient avec Pascal qui sera de retour et Antonine Iacarini.
OK, on va entendre un extrait.